Et bonjour à tous et bienvenue sur le mug Nowtech. Aujourd'hui, c'est le récap un petit peu de la semaine. C'est le mug du vendredi, le mug décontracté. On va quand même parler un petit peu d'actu tech. On va parler du Vision Pro. Hein ? Ne l'achetez pas sauf si. En fait, non, il n'y a pas de sauf si. Ne l'achetez pas. On en parlera. On va parler de quelques petites autres news tech. Après, on parlera de ce que vous voulez, Japon, question tech, tout ce que vous voulez. Ça va être dans le mug. Nous sommes le vendredi 28 juin 2024 et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous en ce vendredi. Comment vous allez bien? Est-ce que vous avez la forme? J'ai complètement oublié d'aller aux toilettes avant le démarrage. Est-ce que je vais tenir? Est-ce que ça fera que je terminerai le mug plus tôt? Je sais pas. La news, c'est surtout qu'il y aura toujours une actu autour du Vision Pro. Oui, c'est un petit peu ça. Salut à tous. Comment vous allez bien? Merci Damien qui ouvre le bal, qui a renouvelé le bon retour du mug. Et oui, on est revenu depuis mardi, mais c'est le retour. Merci Romuald75 également, merci Pat Cyrine, merci à vous les contributeurs. Est-ce que ça va? Il fait un peu plus frais, en tout cas sur Paris. J'espère que pour vous aussi, ça s'est un tout petit peu rafraîchi. Prends une pause et lance un sondage pendant ce temps pour nous occuper. Bon, oui, non, bon, on verra. Ça va, il n'y a pas d'urgence. Peut-être que ça me rendra plus rapide sur les articles. C'est ce qu'espère Samuel. Peut-être que j'ai une couche aussi. On devrait avoir un record aujourd'hui par ici. Ah ouais, de chaleur à Lyon. Salut Mitsugi! Méga pluie sur Tokyo aujourd'hui. Aïe. J'y crois pas une seconde, non, c'est clair. Ça devient un continent comme live, tout à fait. Tout à fait. Il pleut sur Tokyo. Ouais, je sais aussi, Osaka, il fait très chaud et très humide. De toute façon, c'est la saison des pluies, là. Enfin, c'était déjà la dernière semaine où j'étais au Japon, c'était déjà le début, normalement, de la saison des pluies. Tu recordes avec quelle caméra? Ah, t'es un nouveau ici, Dry. Faut jamais demander la caméra. Faut d'abord demander l'objectif ici. Non, sinon, c'est du matériel Sony qu'on utilise pour les streams. On a deux caméras, tu vois, je repasse sur la caméra principale. Je sais même plus les modèles de Sony qu'on a en boîtier. Je saurais même pas vous dire les objectifs aussi. Et s'il y en a un... Là, c'est un 16-35 f2.8. Et là, on a un 35... Et là, c'est un 35 mm f1.4. C'est parce que l'objectif, c'est plus important que le boîtier, vous le savez. Vous le savez, ici. En fait, pour un live, il n'a pas tort, par exemple, des questions de chauffe. C'est pas faux. C'est pas faux. T'as raison, Oleg. Le boîtier, c'est peut-être plus important. C'est un peu important quand on fait du live pour la chauffe. Honnêtement, ça va. Les Sony, on est assez contents. Ils tiennent bien. C'est un quoi déjà que j'ai ici? Putain, en plus, on a mis un scotch devant parce que quand on filme les coulisses, on n'aime pas faire de la pub pour les marques gratuitement. C'est un A7. C'est un A7, la caméra principale. Et là, c'est le petit boîtier, je crois que c'est le R... comment il s'appelle déjà? Le petit Sony avec objectif interchangeable. Putain, j'oublie mes boîtiers, moi. Mais en vrai, je passerais bien du Panasonic pour les caméras live, mais j'ai pas le budget. Oui, c'est le Z... Oula, c'est le ZVE10. C'est le ZVE10, c'est ça, exactement. Vivement la fin de l'été, il fait trop chaud. Aïe, 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 toujours, on est toujours en train de se plaindre. C'est comme les JO. On râlerait si on les avait pas, on râle parce qu'on les a. Ah oui, c'est clair, le son est toujours, en vidéo, le son est toujours plus important que l'image. Ça, c'est clair. Investissez d'abord dans le son avant d'investir dans l'image. En vidéo, hein. En photo, le son, c'est moins important. Les conseils à la con du vendredi matin, merci. J'ai bien fait de me mettre sur ce live. Les conseils à la son, tout à fait, tout à fait. Bon, si on parlait un petit peu de tech, parce que j'ai quand même envie de parler de tech avant de démarrer l'émission, après, ça sera full gravier. On part où vous voulez, on peut parler de jean japonais, ou de jean japonais, ou encore peut-être de jean japonais. Voilà, c'est vraiment, vous avez le choix. C'est bon, je suis là. Bon, bah c'est bon, Ragno est arrivé, on va pouvoir démarrer. Même pendant les articles tech, tu es dans le gravier. Ouais, mais tu vois, au Japon, c'est vraiment ce qu'on apprend. Les graviers, c'est beau. Ils en font des jardins de gravier. Nous sommes un peu le jardin sec du Twitch game français. Je ne sais pas si c'est génial comme titre. On est stonewashed. Exactement. Comme les jeans Stonewash. S'il y a vraiment... Ah oui, c'est vrai, Golb. Si on n'a vraiment plus rien à dire, on peut éventuellement passer sur les jeans japonais. C'est comme vous voulez. Oula, Manon, elle est en forme. Les conseils de Véronique qui a arrêté de streamer pour des problèmes techniques car Véronique sans son. Waouh, Manon, t'as mis quoi dans ton café ce matin? T'as vu, j'ai appris un terme du jeans game. Tout à fait, Oleg, je suis très impressionné. Le stonewash. Mais en quelle année a été inventé le stonewash? Y a-t-il plusieurs techniques de stonewash? Quelle pierre ponce faut-il utiliser pour le stonewash? Mon Dieu! Putain, ceux qui sont nouveaux là sur l'émission, ils se disent « Mais attends, je suis sur quoi là? Il se passe quoi ?» Des trucs bizarres. Toujours des trucs bizarres. Allez, on va parler un petit peu de tech. J'aimerais parler du Vision Pro. Peut-être la dernière fois qu'on en parle. Donc, il faut en profiter. Il faut en profiter. J'ai sélectionné trois petits articles ce matin qui m'ont paru intéressants en tech. On va parler effectivement de Apple qui lance aujourd'hui. En tout cas, l'achat du Vision Pro est ouvert. Il est déjà ouvert ou pas ? Je vais pas regarder parce que je m'en tape, je vais pas le commander personnellement. Donc, il lance le Vision Pro. Qui va l'acheter en France? C'est super cher quand même. Vous allez en avoir. Alors là, le modèle de base, il est à 3999, donc 4000. Si vous voulez le 512, c'est 4249. 1 Tera Octet 4500, on va dire. Mais n'oubliez pas qu'il vous faut aussi Enfin, c'est mieux de l'acheter avec la housse, là, la housse blanche, parce que comme ça, il prendra un peu moins la poussière sur l'étagère. Enfin, bref, si on commence à l'accessoiriser, et surtout, si vous mettez des lentilles correctrices dedans, les inserts avec prescription, qui sont à 115 euros. Non, 169 euros. Sauf si vous mettez les verres loupe, c'est à 115 euros. Ouais, on est vite dans les 4000, quoi. Pourquoi je vous dis assez sommairement ne l'achetez pas? Normalement, quand je dis ça, je dis toujours sauf si. Parce que il y aura toujours un groupe de personnes pour qui ça peut être intéressant. Là, à part, alors, mais vraiment, c'est une infime exception. À part si effectivement vous êtes développeur et qu'on vous a demandé spécifiquement de bosser sur des projets pour le Vision Pro, je ne vois absolument pas de raison de l'acheter. Oui, 5000, oui, plutôt. Parce que même ceux qui sont allés, les youtubeurs français, qui sont allés aux États-Unis pour l'acheter, qui l'ont ramené, les Léo Duff, etc., le disent et l'ont dit sur les réseaux sociaux. Il prend déjà la poussière. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire dessus. Passer l'expérience de se faire un ou deux films. Au début, ils essayaient de se convaincre eux-mêmes, parce que quand même, c'est un achat conséquent, qu'ils allaient regarder des films dessus, faire des trucs, travailler peut-être un petit peu dessus. Mais à ma connaissance, je ne vois plus aucun YouTuber qui l'ont acheté dire « on l'utilise au quotidien ». Et de plus en plus disent « je le sors même pas une fois par semaine ». Et même, j'ai envie de dire, pour le dev, Jurassic Park, là, on peut, légitimement, il faut se poser la question. Est-ce que ce produit a de l'avenir? Est-ce que Apple va persévérer avec le Vision Pro? C'est une vraie question. Moi, je pense que oui. Apple n'a pas dit son dernier mot. Mais Apple, il n'y est pas encore. Les rumeurs disent qu'ils sont en train de travailler en catastrophe sur un casque qui sera beaucoup moins cher. Qu'est-ce que ça veut dire beaucoup moins cher chez Apple? Moi, je pense qu'au-dessus de 2 000 €, ils ont beaucoup de mal à le vendre. Je sais, il y a les problèmes de poids, d'ergonomie, de trucs, mais il y a quand même une barrière psychologique. Un produit à plus de 2 000 € qui ne sert pas beaucoup, voire pas du tout. Et c'est là où souvent on dit Apple, c'est des produits de luxe, donc les gens achètent quel que soit le prix. C'est faux. Enfin, moi, je ne pense pas que Apple est sur les produits de luxe. Apple a fait du marketing de produits de luxe, mais ce n'est pas un produit de luxe. Et même un Apple fanboy, alors un collectionneur éventuellement achètera le Vision Pro sans le déballer, pour pouvoir le revendre dans 50 ans en essayant de faire une plus-value dessus. Mais même un Apple fanboy, est-ce qu'il dépenserait 5 000 € juste parce que c'est Apple? Je ne dis pas, ça serait à 500 €, oui. 800 € peut-être. 1 000, bon, déjà, ça sera des fanboys qui ont de l'argent à perdre. 5 000, même pour quelqu'un de riche. Alors, je ne parle pas d'ultra riche. Une broutille, 5 000, mais je ne sais pas. C'est beaucoup trop tôt, ce type de produit. Ouais, mais on peut se poser la question, est-ce que ça a vraiment de l'avenir? Tout le monde se casse les dents dessus. Je veux dire, on n'a peut-être pas encore, surtout la technologie, effectivement, de miniaturisation, mais il n'y a pas que la miniaturisation. Allez voir, je vous avais montré une vidéo, j'ai oublié le nom de la chaîne encore une fois, mais un mec qui explique justement les challenges, parce qu'on est tous là à dire oui, mais quand ça sera aussi fin que des lunettes de soleil, là, on... Et il explique les challenges technologiques, et c'est des technologies qu'on n'a pas aujourd'hui, parce qu'il y a des problèmes physiques à faire. Alors, on peut faire de l'affichage tête haute, hein, afficher des flèches Google dans des lunettes de vue. Ça, on sait faire. Mais faire un affichage immersif dans des lunettes qui laissent passer la réalité sur les côtés... Enfin, il y a énormément de challenges technologiques, quoi. Est-ce que ça pourrait remplacer les écrans? Dans les faits, oui. Dans la réalité, en fait, il y a un truc en tech, c'est qu'on oublie, nous, souvent, parce qu'on est des tech enthousiastes, que la moindre petite friction, la moindre contrainte, pour un usage quotidien, peut complètement annihiler l'utilité d'un produit. Je m'explique. Les écrans pliants. Le fait de devoir faire un geste de plus pour avoir un grand écran qu'on peut replier dans sa poche. Techniquement, sur le papier, ça paraît une solution idéale. Mais dans les faits, et j'en ai discuté avec des gens qui sont sur le marché du pliant, ils disent qu'il n'y a qu'un petit pourcentage de gens, on le sait par des études de marché, qui au quotidien, bien sûr, on ne parle pas de la découverte du produit, là les frictions, ça passe à la découverte d'un produit. Mais il y a très peu de gens au quotidien qui sont prêts à faire un geste supplémentaire pour l'apport que ça a, d'avoir un truc plus petit dans la poche, c'est un gain, mais ça oblige à faire un geste supplémentaire pour ouvrir son smartphone. Et en fait, au quotidien, on s'en rend peu compte à la sortie des produits, mais au quotidien, la moindre friction peut devenir un blocage complet d'un processus. Et les développeurs vous le diront dans une appli, et c'est pour ça que le design existe, s'il y a une étape de trop dans un cheminement d'utilisateur dans une application, ça peut tuer complètement une fonctionnalité. Les gens auront la flemme de faire ce geste 300 fois par an et du coup vont pas utiliser telle ou telle fonction. C'est pour ça que l'emplacement des boutons et le cheminement dans une appli, c'est super important. Et dans le cas du Vision Pro, je reviens au propos initial, oui, ça peut remplacer des écrans, mais la friction de devoir mettre sur le visage quelque chose de relativement lourd, qui potentiellement peut chauffer, qui nous rend plus ou moins aveugles au monde extérieur, c'est des frictions énormes. Donc même si le bénéfice au final, c'est de pouvoir éviter d'acheter des écrans et d'avoir des grands écrans partout où on va, pas évident qu'au quotidien, sauf peut-être pour une toute petite niche d'utilisateurs ultra mobiles, le bénéfice ergonomique vaille les manipulations supplémentaires, en fait. Donc, et c'est souvent une erreur qu'on fait dans la tech parce qu'on a l'enthousiasme d'une nouvelle technologie en disant « Waouh, c'est trop bien, c'est incroyable !» Et c'est vrai que le Vision Pro est un bijou technologique. Mais je crois que justement, quand on parle de bijou technologique, il faut faire attention au mot « bijou ». Est-ce qu'un bijou en soi est quelque chose d'utile ? C'est débattable. Et en tech, c'est quand même ce qui est utile le plus important. On n'est pas dans la part... Je ne dis pas que les bijoux ne servent à rien, attention, pas du tout. Je pense d'ailleurs à m'acheter des bracelets. On s'en fout, mais voilà. Moi, j'aime l'esthétique, enfin l'apparence, pour moi, ça a quelque chose d'important. Donc attention, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais dans la tech, à part peut-être pour les Apple Watch... L'apparence, c'est pas le plus important, c'est quand même l'utilité le plus important. Et alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Yascred. Hier, parce que je voulais regarder un truc en VR, enfin, je voulais tester justement des images que j'ai capturées en VR du Japon. J'ai mis mon Quest 2. J'ai toujours mon Quest 2 qui prend la poussière à la maison, que je sors uniquement pour du porn. Mais non, mais j'aurais jamais dit ça en direct. Là, tout le monde qui dormait un peu... Hein ? Il a dit quoi ? Non, bref, mon Vision Pro qui prend la poussière, hier, il faisait chaud, je l'ai mis, mais en même pas 3 minutes... Je dégoulinais du visage, quoi. C'est importable quand il fait chaud, ces trucs-là. Donc, ouais, ok, un Vision Pro, je peux regarder un film en Dolby, machin, grand écran dans mon salon. Mais enfin, si je transpire de la gueule au bout de 3 minutes, hors de question que je regarde un film dans ces conditions. Trop d'activité physique, sans doute, tout à fait. Simple Vision Pro, simple accessoire au même titre qu'un Pencil. Ouais, mais alors non, d'abord, je suis pas d'accord. Ni le Pencil, ni l'Apple Watch sont des accessoires, à mon avis. C'est des prolongements. C'est pas la même chose. Mais bon, c'est débattable. Mais la notion même d'accessoire, c'est pas forcément quelque chose dont on peut se passer. Mais de toute façon, un accessoire, il y a aussi une question de prix. Là, pour l'instant, le Vision Pro coûte plus cher que des écrans qu'il pourrait remplacer. Donc déjà, ça pose un problème. Voilà, et la réaction de Rombaric, c'est exactement ça, un accessoire à 4000 euros, à moins d'être dans le domaine du luxe et d'acheter chez Chanel des boucles de chaussures à 4000 euros, je suis sûr que ça existe. Dans le domaine du luxe, de toute façon, il n'y a pas de choses rationnelles. Les gens me font toujours marrer chaque année essayer de trouver les prix de fabrication des smartphones. Vous croyez que dans le luxe, on se pose des questions sur les prix de fabrication des choses? Bref. Il y a des lunettes Huawei qui font un peu ça. Mais en fait, tu as répondu à la question avec le un peu. Un peu, c'est pas faire. C'est un peu le problème du marché de la VR. Tout fait un peu. Et le Vision Pro, moi, j'ai aucun doute. C'est le meilleur casque VR qui existe sur le marché. Sauf que même le meilleur casque VR, aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé la killer feature. C'est aussi simple que ça. Pour l'instant, il n'y a pas d'application et même regarder des films dans les meilleures conditions possibles. Le problème du film en VR avec un casque VR, c'est que d'abord, c'est une consultation solo, point. Et pour beaucoup, regarder des films, c'est une expérience collective, au moins à deux, quoi. Ça dépend. Moi aussi, hein, je regarde des films tout seul et tout ça. Donc là, éventuellement, un Vision Pro pourrait me plaire. Mais en plus, il y a des frictions comme quand même la batterie qui n'est pas énorme, le poids, effectivement, la chaleur du truc, le prix. Un truc tout bête, mais qu'avait très bien résumé un mec de The Verge. Je n'accepterai pas de me décoiffer tous les matins pour avoir des écrans virtuels. C'est con, hein, mais si vous avez déjà testé un casque virtuel, votre belle coiffure que vous avez mis du temps à faire... C'est pire qu'un casque de moto, parce que ça va vous aplatir des bandes de cheveux, en fait. Et ça paraît con et futile, mais moi, il est hors de question, effectivement, que je sois décoiffé tous les matins, quoi. Là, certains sont en train de dire... T'es en train de dire que tu te coiffes le matin, Jérôme ? Les chauves n'ont pas ce problème, tout à fait. Mais ils en ont d'autres. Donc en fait, il y a quand même tout un tas de problèmes. En fait, le bénéfice utilisateur n'est pas suffisant pour qu'on accepte de transpirer du visage, d'avoir un poids sur le nez et de se décoiffer. Par contre, effectivement, demain, il y a un jeu vidéo qui n'existe qu'en VR. Et avec un gameplay complètement incroyable, et je parle pas de Beat Saber, s'il vous plaît, Beat Saber, c'est sympa, mais enfin, ça va 5 minutes, quoi. Mais un jeu immersif où, waouh, je bascule complètement dans autre chose. Et oui, j'ai testé le Afterlife en VR, et c'est vrai que c'est cool, mais pas suffisamment pour que j'ai envie de porter un casque VR, même par 30 degrés, quoi. Oui, Half-Life Alyx. C'est génial, mais pas suffisamment génial pour que j'accepte les contraintes d'un casque VR sur mon nez, tout le temps. Ou alors, il n'y a pas une appli professionnelle en VR qui serait un game changer dans ma productivité, qui ferait que les contraintes de porter un casque VR soient finalement rentables au quotidien. Demain, attendez, par contre, tu me dis, on a inventé une appli qui permet de faire du montage 4 fois plus vite, enfin, de faire mon travail, d'être 4 fois plus productif. Je me mettrai un ventilo sur la table pour éviter d'avoir trop chaud. Je me mettrai un contrepoids pour éviter d'avoir mal à la nuque. Et je porte un casque VR. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'appli qui sont sorties qui me permettent un gain de productivité x4 parce que je porte un casque VR. C'est aussi simple que ça, en fait. Au bout d'un moment, dans la tech, il faut être rationnel. Et on ne l'est souvent pas parce qu'on est dans des enthousiasmes technologiques. Mais il y a un moment, au quotidien, on va utiliser ce qui est pratique. Pourquoi les iPhones marchent bien? Pourquoi les produits Apple marchent bien alors que techniquement, ils sont souvent en retard sur la concurrence? Vous voyez, je le dis, vraiment, je suis le premier à le dire. Apple adopte très tard des technologies, ça fait bien longtemps que ça existe sur Android, etc. Et pourquoi, du coup, l'iPhone marche? Alors, la réponse simple des haters de Apple, c'est parce que les acheteurs d'Apple sont tellement cons qu'ils achèteraient n'importe quoi. Non. Là, vous insultez, en fait, les gens qui... si ça vous fait plaisir, vous pouvez les insulter. Mais c'est juste votre degré de somme, ça. Si autant de gens achètent des produits Apple alors qu'ils sont technologiquement en retard, c'est parce que les produits Apple sont fiables et qui marchent. Et c'est ce que cherchent beaucoup de gens. Alors je sais, il y en a plein qui vont me dire « Oui, non, mais Android et PC, c'est hyper fiable aussi. » Pas autant. Je suis désolé, pas autant. Non, c'est un peu vrai quand même, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que Doom, il faut comprendre que 80 à 90% du marché de la tech sont des gens qui en ont rien à foutre de la tech. Ils ne sont pas du tout intéressés. Ils ne regardent pas Nowtech. Ils ne sont pas dans ce live. Eux, la technologie, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec la technologie. Comprenez? Nous, on est des technophiles. On est dans un prisme. On est dans une petite niche. Et on est là à... Ah oui, non, mais c'est hyper important que mon écran soit 4K. Mais en fait, la plupart des gens n'ont rien à foutre. Tout ce qu'ils veulent, c'est que ça marche bien et que ça les aide à faire des trucs. Et ce n'est pas qu'une question de novice. En fait, le problème des technophiles, c'est que nous, quelque part, on est des... Je fais souvent ce parallèle. Est-ce que vous pensez que toute personne qui achète une voiture doit s'y connaître en mécanique et en bagnole? Honnêtement, est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir un permis d'acheter une voiture où il faut connaître quand même un minimum comment fonctionne un moteur et comment fonctionne une bagnole et s'y connaître quand même un minimum en bagnole? Alors les fans d'automobile vont vous dire oui, parce que c'est des gatekeepers et ça les fait chier que des gens qui ne s'intéressent pas à l'automobile achètent des bagnoles. Mais en fait, la réalité d'un marché, c'est que la plupart des gens qui achètent des voitures n'ont rien à foutre des voitures. Ils veulent un véhicule qui les déplace d'un point A à un point B de manière fiable, que ça soit costaud et une jolie couleur éventuellement. Bah, la tech, c'est exactement pareil. Et Apple l'a compris avant les autres. Steve Jobs avait très bien compris qu'il ne fallait pas vendre des ordinateurs qu'à des gens qui savaient utiliser des ordinateurs. Et ça, ça a été très tôt dans l'ADN d'Apple. Et du coup, Apple a un peu tourné le dos aux technophiles. Le permis de conduire inclut des connaissances sur la mécanique. Ok, mauvais exemple, si vous voulez. Enfin, c'est pas non plus des connaissances de ouf. Aujourd'hui, en plus, avec les voitures bardées d'électronique, enfin, de toute façon, plus personne peut réparer soi-même sa bagnole. Non, c'est pas vendre une belle carrosserie. Ça, c'est une erreur que fait très souvent le public en jugeant Apple. Apple, ils vendent du vent. Non, Apple vend de la fiabilité. Apple vend des produits qui marchent et qui ont des utilités pour les gens qui les achètent et qui ont une constance surtout. Ça, c'est quand même une réalité d'un produit Apple. Un produit Apple, à moins que tu commences à faire des dingueries avec et installer vraiment n'importe quoi, un Mac démarre comme au premier jour, 3 ans après que tu l'aies acheté. Un iPhone démarre comme au premier jour, toute sa durée de vie. Et je sais, hein, ça nous froisse parfois dans le petit club des technophiles que nous sommes. On dira, les gens, ils sont complètement cons d'acheter ça. Nous, on sait que c'est nul. D'abord, parfois, on est un peu snob. Et puis, parfois, on est un peu dans notre tour d'ivoire des gens qui sachons. Et on est très surpris, parfois, que des gens achètent ça, alors qu'il y a vachement mieux ailleurs pour moins cher. Mais ouais, mais c'est parce que les gens, ils n'achètent pas une technologie. D'abord, les gens sont sensibles au marketing, ça, c'est pas faux. Les gens achètent des usages, ils n'achètent pas des technologies. Et ça, Apple l'a compris très vite. Et c'est, je reviens au sujet, c'est le problème du Vision Pro. Apple n'a pas donné un usage précis. Le Vision Pro, aujourd'hui, d'un point de vue marketing, n'est pas bien positionné chez Apple. Ils ne savent pas comment le positionner. Est-ce que c'est un truc pour les développeurs? Est-ce que c'est un truc pour travailler? Est-ce que c'est un truc pour regarder des films? Ça fait un peu tout, mais c'est pas un banger dans aucun des domaines. Mais les jeans, c'est pareil, Oleg. Mais tout à fait, on peut faire le parallèle avec n'importe quel truc. Le selvedge dans les jeans, 99,9% du marché en ont rien à taper des qualités des toiles japonaises. Pour eux, tout ce qu'ils voient, c'est le prix d'un jean. Cette chose et le petit ruban. L'idée, c'est pas d'être ingénieur en mécanique, juste de savoir causer à son mécano. Mais encore une fois, Julien, on a ces espèces d'exigences. Ah, les gens devraient s'y connaître un minimum en informatique avant d'utiliser un ordinateur. Pourquoi? C'est un peu des réflexions un peu paternaliste de gatekeeper. C'est comme si moi, nouveau fan des jeans japonais, je disais, les gens ne devraient pas avoir le droit de porter un jean sans savoir comment il est tissé, quoi. C'est n'importe quoi. Qui va s'intéresser au tissage des toiles de denim, quoi? Et est-ce que pour ça, on doit interdire aux gens d'acheter des jeans? C'est là où, attention, quand on est fan de quelque chose, à ne pas devenir un gatekeeper. Les gatekeepers, c'est ces gens qui disent « Les gens ne devraient pas avoir le droit d'acheter des... » Les gens qui n'ont pas regardé le dessin animé One Piece ne devraient pas avoir le droit d'aimer One Piece. Non mais, c'est quand même... Moi, j'ai acheté un t-shirt Détective Conan. J'ai jamais regardé un épisode de Détective Conan, mais j'ai trouvé le t-shirt chouette. Donc voilà. Tu laisserais conduire quelqu'un qui ne sait pas un minimum ce qu'il fait. Là, tu compares pas. Le problème. C'est qu'avec un véhicule à moteur, si tu ne sais pas le conduire et que tu vas sur la route, tu risques de tuer des gens. Est-ce que tu risques de tuer des gens si tu sais pas tu sais pas changer dans ton setup de Windows ta la définition de ton écran. Voilà. Mais après, je suis d'accord, il y a des activités. Et là, vous prenez des activités. Moi, je suis le premier à dire il faut quand même légiférer au maximum, par exemple, sur la haute montagne ou la haute mer. On n'a pas à subventionner des hélicos et des sauveteurs pour des inconscients qui font pas attention et qui savent pas ce qu'ils font. Mais attention non plus à pas devenir... On peut parler de l'Everest, Inox Tag et tout ça, et toutes les polémiques qu'il y a eu autour de ça. L'Everest ne devrait être réservé qu'à des vrais alpinistes confirmés. En fait, le problème des gens qui disent ça, c'est où est-ce qu'on fixe les limites et elle est où la liberté là-dedans? Attention, je ne suis pas en train de dire que n'importe qui devrait pouvoir grimper l'Everest. Mais il faut laisser aussi des libertés aux gens. Je vais prendre moins extrême que l'Everest. Le ski hors piste, c'est une vraie question. Moi qui habitais à Grenoble et les problèmes d'accidents de ski hors piste, c'est un problème auquel est confronté comme si vous habitez au bord de la mer et la haute mer et prendre un bateau. Bah, il faut un minimum de permis. On peut interdire l'accès de certains endroits, mais on ne peut pas non plus mettre des barrières de 3 km de haut et bloquer les gens. Donc, oui, c'est pour ça, je suis d'accord avec vous. Une voiture électrique non autonome, et on n'y est pas encore, la voiture autonome, hors de question de laisser les gens conduire ça. Alors, je sais qu'il y a des voitures sans permis. Il y en a qui vont me sortir, oui, mais il y a des voitures sans permis, donc c'est pas tout à fait vrai ce que tu dis. Vous me saoulez. Voilà, je peux le dire, vous me saoulez, là, les gens. Alors, les voitures avec permis, c'est normal qu'il y ait un permis, parce que vous pouvez tuer des gens si vous les conduisez sans permis. Faut-il un permis d'utiliser un ordinateur? Non. Mais si un ordinateur, ça peut tuer des gens. Si tu fais une mauvaise manipulation et que tu vas sur l'ordinateur du Pentagone et que tu déclenches une bombe atomique, tu vas tuer des gens. Ok. Ok. Après, si on lance un ordinateur très très fort, on peut tuer. Ouais. Interdit d'acheter une maison si on ne sait pas en construire une. Bah, y a un peu ça, hein. On n'avait pas le droit d'acheter une maison si vous ne connaissez pas les compositions du béton. Hein? Non, mais comment ça? Tu sais pas comment on fait des fondations? Pas le droit d'acheter une maison. Moi, je vous le dis, vous n'avez plus le droit de manger du sushi tant que vous n'avez pas appris à découper le poisson. Interdiction totale de manger du sushi. Bah, je suis sûr qu'il y a dans le monde des gatekeepers du sushi qui vont dire que c'est un scandale, ces gens qui mangent du sushi sans savoir du tout quoi que ce soit sur la découpe du poisson. Bref, on s'est éloigné du sujet, mais en même temps, c'était intéressant comme débat. Parce qu'attention, les technophiles, de ne pas devenir des gatekeepers, réfugiés derrière les murailles fines de nos connaissances, à interdire l'entrée à des néophytes sous prétexte qu'ils ne savent pas. Oh, tu sais pas ce que c'est que le Thunderbolt 4? écoutez, tu peux pas acheter un ordinateur, je suis désolé. Vieux con, tu peux être vieux con sur plein d'autres trucs, Fanny. C'est trop vaste, un vieux con. Et en plus, je dirais que la connerie est quand même pas l'apanage des vieux. Hein. Je connais des jeunes vieux cons. Hein. Ça existe, hein, les jeunes vieux cons, ça existe. Mais tout ça pour dire, Gatekeeper, c'est une connerie bien spécifique. C'est une forme d'élitisme qui ne supporte pas de laisser rentrer des gens sous prétexte qu'ils ont moins de connaissances que nous, sur un domaine très particulier. Et effectivement, mais vous avez la même chose, en jean japonais, en photo, en cuisine, tout ce qui est, les passionnés glissent souvent vers le gatekeeperisme et n'admettent pas que des gens qui savent moins de choses qu'eux viennent dans leur territoire, en fait. Et ça vous rend très con d'être un gatekeeper, en fait. Donc moi, je serais un fan des jeans japonais, mais hyper ouvert. Vous faites ce que vous voulez avec vos jeans. J'en ai rien à foutre. Allez, je voulais parler rapidement de deux autres choses avant que... Vous allez me dire, on est déjà à fond dans les graviers, mais on l'assume pas encore. Je voulais vous parler des Bretons, parce que c'est une victoire pour la Bretagne aujourd'hui. La langue bretonne intégrée à Google Traduction, la communauté bretonne très dévouée a eu un impact sur la décision. Donc Google, alors j'ai vérifié ce matin, ça y est pas encore dans Google Traduction sur mon iPhone, mais ça ne devrait pas tarder. Google vient d'intégrer 110 nouvelles langues à son outil de traduction Google Translate, dont le breton. Le porte-parole français du géant américain du numérique nous explique l'engouement des bretonnants et le travail conjoint entre l'intelligence artificielle et les experts en langue qui ont amené à l'arrivée de la langue bretonne dans le logiciel connu internationalement. Ce qu'il dit est assez intéressant, c'est que dans les faits, le breton n'est pas parlé par énormément de gens. Ils disent 400 000 à peu près, ce qui n'est pas rien non plus. Non, 200 000. Le breton concerne à peu près 200 000 personnes. Mais la communauté est très active. Et surtout, et c'est ça le plus important, il existe beaucoup de contenu autour du breton, ce qui a permis d'ailleurs de développer avec l'intelligence artificielle la traduction. Le catalan y est déjà hein, depuis un certain temps. Mais là, il y a... Il y a aussi, il n'y a pas que le breton hein, d'ailleurs qui est passé. Il y a l'occitan aussi qui vient de passer. Le breton, l'occitan. Mais le catalan, le corse, le basque, ils sont déjà dans Google Traduction. Et le catalan aussi. Le catalan, ça a quand même une position un peu... Enfin, désolé, hein, mais en termes d'utilisation, le catalan, c'est quand même pas mal utilisé, hein. Et pareil, le basque, je sais pas, j'ai pas les chiffres de l'utilisation du basque. L'occitan, j'y connais rien. L'occitan, c'est encore beaucoup utilisé. Le corse, oui. L'alsacien, il y a une langue, c'est allemand. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 je vais avoir des problèmes. Occitan. J'ai dit Occitan ? Oui, Occitan. Oh là là, tiens, je vais avoir des problèmes. Le ch'ti, l'intelligence artificielle s'est pété les dents sur le ch'ti. Ils y sont pas arrivés. L'Alsace et la Lorraine avec moi. T'es allemand pour dire ça? Non, désolé. C'est des blagues, c'est du dixième degré. Oh. Oui, ça va, entre les C qui se prononcent X et les X dans le basque qui se prononcent je sais plus comment. C d'ailleurs, je crois. La bague de plus d'un siècle. Oleg, vu la situation géopolitique aujourd'hui, je crois qu'on peut ressortir toutes nos blagues de l'après-guerre ou de la guerre froide. Hein. Moi, je ressors mes blagues russes que je faisais quand j'étais en primaire. Hein. Et qu'il y avait encore l'URSS. Hein. Attention aux gatekeepers de l'Occitan, exactement. Oui, c'est ch, le X en basque. Il y avait trop de maroilles dans les circuits pour le ch'ti, ouais, tout à fait. Bref, écoutez, moi, je suis très content pour le breton. Et c'est très bien. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser Google Translate quand je vais à Vannes pour me faire comprendre. Parce que jusqu'ici, c'était un petit peu difficile. Dès que je disais bah, « je viens de Paris », plus personne, les gens refusaient de me parler, me jettent des pierres ou des kunyamam moisis. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi les Parisiens sont pas acceptés? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait, nous? On est gentils. Alors, j'ai compris, il fallait jamais dire que je dise que je suis parisien. Trop de beurre, ça moisit pas. Ça se transforme en vache. Ça se retransforme en vache, ouais. Il y a des dialectes des Outre-mer? Je sais pas du tout. C'est pas précisé dans l'article, ouais. En fait, Google a l'air vraiment de se baser sur le nombre d'utilisateurs réels d'une langue. Et surtout, ça a l'air d'être un critère important. Est-ce qu'il y a eu, il y a beaucoup de données disponibles? C'est-à-dire, est-ce que des bouquins ont été traduits dans cette langue et ce genre de choses? En Bretagne, on ne parle pas le breton, mais aussi le gallo. Question, le gallo est-il... Je ne pense pas que le gallo... c'est la première fois que j'en entends parler. Je vais être honnête. Et est-ce qu'il y a beaucoup de livres qui existent en gallo? Ça a l'air d'être un critère très important. Le fait qu'il y ait de la documentation. Et je comprends aussi, c'est parce que c'est comme ça que tu entraînes l'IA à faire de la traduction. Il faut qu'il y ait beaucoup de documents écrits dans une langue, en fait. Beaucoup de sources, en fait. Et c'est vrai que le breton, beaucoup de choses ont été traduites en breton, ouais. Est-ce qu'il y aura des langues fictives sur Google Trad, genre le klingon et l'elfique? Ça, j'en sais rien. Le gallo-romain, c'est très peu utilisé, hein, de nos jours. Ah, mais vous avez mangé des clowns hein, ce matin. Evian est-il donc traduit car il y a une source? Oh mon Dieu. Le Klingon est déjà dans Google Traduction? Le créole doit y être. Le truc, c'est qu'il y a plusieurs créoles, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, il y a plusieurs créoles, on ne parle pas les... Donc, est-ce que... Après, je ne m'y connais pas en créole. Est-ce qu'il y a un créole consensuel de base? C'est le créole haïtien qui est dans Google Traduction, d'accord. Comme il y a plusieurs anglais, ouais, tout à fait. Bah, j'en parlais avec Karina. Par exemple, nous, on avait eu un problème avec Samsung, avec le portugais, parce que le portugais qu'il y a dans la traduction des Samsung de base, c'est plus le portugais qui est parlé au Brésil, qui n'est quand même pas le même que le portugais du Portugal. Et même sur des tournures de phrases, quoi. Bon, c'est comme le français. Le français parlé en France et le français du Québec, il y a quand même des différences de mots. On se comprend, hein, sans trop de problèmes. Mais il y a quand même des vraies différences, quoi. Le créole, ça tourne en boucle. Eh mais sérieux, crachez vos clowns, là. Hein, on va pas y arriver, hein. Le gallo était parlé à Rennes, Saint-Brieuc, par exemple. Oui, oui. Après, si on commence... alors, je veux pas être péjoratif en qualifiant le gallo d'un patois, mais il y a beaucoup de... Il y a une époque où on avait des langues différentes village par village en France, hein. Et des mots différents village par village. Ça va devenir compliqué quand même. Gallo, Gal, français qui disent galette alors que les bretons disent crêpe. Aïe, aïe, aïe. Et les Normands, ils disent quoi? Les Normands, ils disent « Le Mont-Saint-Michel, c'est à nous !» C'est tout ce qu'ils disent. Voilà, l'article dit « Nombre de demandes plus nombre de personnes qui le parlent plus nombre de publications dans cette langue. » Donc, les défenseurs du gallo, là. Hein? Il va falloir avancer au galop. Les défenseurs du galop, Ansel, il faut défendre, il faut demander. Donc, il faut faire des pétitions. Il faut que vous vous assuriez que plein de gens parlent le galop et qu'il y ait des documents écrits en galop. Moi, le galop, je trouve ça beau. Crache ton clown toi-même. J'ai honte avec ton jeu de mots. C'est le propre d'un bon jeu de mots. Il doit avoir une quantité de cringe dans un bon jeu de mots. Un bon jeu de mots de tonton doit mettre mal à l'aise. Heureusement, il reste des modos pour expliquer les articles pendant que le présentateur part en gravier dès le titre. Exactement. Vous êtes là pour ça. Et alors, petit article, effectivement, revenons, enfin, je veux dire, arrêtez de me divertir, là, de m'emmener n'importe où. Non, merde, ça, c'était pas le bon article. Ça, c'était hier. Le paiement sans contact plus. Petite news, mais c'est important. Hein. C'est la fin du plafond à 50 euros pour votre carte bancaire sans contact. Vous allez pouvoir payer plus de 50 euros sans contact, sans devoir passer par des Apple Pay ou des Google Pay et tout ça. Vous pourrez payer sans contact. Le plafond était à 50 euros. Vous souvenez-vous, quand on a démarré, on était à 20 euros. Là, maintenant, on est à 50 euros. Attention, il faudra quand même composer votre code au-delà de 50 euros, ce qui est une petite protection supplémentaire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est vrai que moi, j'utilise maintenant beaucoup Apple Pay, donc j'ai plus la limite de 50 euros depuis longtemps. Dangereux si on te vole ta carte. Non, le paiement sans contact est dangereux si on vient sniffer ta carte. On peut te piquer jusqu'à 50 euros, mais là, comme il faut le code, alors il faut qu'on te pique ta carte plus ton code. Ça, de toute façon, oui, c'est dangereux si on vous pique votre carte plus votre code. Bah oui, c'est pas un vrai sans contact, dans le sens où il faut quand même composer son code. C'est pour ça que moi, je préfère la biométrie, effectivement, de mon... moi, je paye tout avec l'Apple Watch. J'ai une valise pleine d'Apple Watch et dès qu'il faut que j'achète un truc, je donne une Apple Watch, quoi. C'est, j'ai tout compris au paiement avec Apple Watch. Et ça, c'est une bonne blague de tonton, vous voyez. Puis je la fais régulièrement. Hein. Ah, je vous paye avec mon Apple Watch. Puis la boulangère, ah, vous me donnez votre montre. Je vais voir quand même, vous allez me donner un petit peu plus de baguettes alors. J'adore ces blagues. Mais en fait, au Japon, il y a beaucoup ça. On paye sans contact, mais il faut quand même composer le code. Il est bizarre, le monsieur. Il me fait un petit peu peur, le monsieur, là, dans l'iPad. Le temps est le même de mettre la carte ou attendre la lecture sans contact. Je suis assez d'accord. Je ne sais pas si la friction de mettre la carte ou de la passer, sachant que tu as le code à faire derrière, le gain est peut-être pas ouf. Si dépasser une certaine somme sur Newt, moi, ils m'ont souvent fait composer le code. Alors, c'est peut-être parce que j'avais une carte bizarre. J'ai essayé de payer avec ma carte de visite. Ça n'a jamais marché. Ouais, en gros, si vous pouvez avoir du Google Pay ou de l'Apple Pay ou du Samsung Pay ou du PayPay, c'est tellement mieux. Moi, je vais rester avec l'Apple Watch. Ça se fait encore les cartes de visite. C'est vrai que ça ne se fait plus du tout les cartes de visite. En fait, j'ai encore une petite pile de vieilles cartes de visite. Mais il y a encore 5 ans, on s'en servait encore hein, des cartes de visite. Mais c'est vrai que les cartes de visite, ça ne sert plus à rien maintenant. Bah, en vrai, d'obliger à faire le code au-delà de 50 euros, moi, je trouve ça quand même bien. Parce que même si la probabilité qu'un mec vienne à côté de toi pour hacker le signal, enfin, le fait qu'il puisse pas te voler plus de 50 euros, c'est quand même bien s'il a pas ton code, tu vois. Donc, je trouve que c'est quand même une protection pas trop mal. Ouais, PayPal, c'est pas mal répandu au Japon, ouais. Ouais, le code, c'est plus sécurisé, mais pas pratique. Il y a un moment, il faut choisir entre sécurité et pratique sans friction. C'est pour ça que la biométrie, payée avec son Apple Watch ou son smartphone avec un contrôle biométrique, moi, je trouve ça tellement bien. Oui, en vrai, moi, j'ai vu des vidéos là-dessus. Pour que quelqu'un vienne prendre le signal de votre carte bleue, il faut vraiment qu'il se colle à vous. C'est vraiment chelou, hein, quand même. Mmh, 50 euros, je crois pas que c'est par jour, hein. Je crois que c'est par achat, par somme en fait. Je sais pas, mais a priori, l'article précise pas que c'est 50 euros par jour, hein. Ça, par contre, c'est des réglages que tu peux faire au niveau de ta banque aussi. Moi, je sais qu'avec deux de mes banques, je peux régler très finement et de manière granulaire ce que j'autorise ma carte à faire ou pas, hein. Bref, voilà. Bon, c'est une petite news quand même à vous faire. Allez, on a fini les articles. De quoi on parle? De quoi on cause maintenant? Les frotteurs du Japon sont pas des pervers, mais des pirates. Ouais. C'est peut-être l'excuse. Non, non, je me frottais contre vous juste pour piquer de l'argent sur votre carte bleue. En fait, je suis ouvert à vos questions. Si vous avez des questions, on peut poser. Je peux trier des photos pendant ce temps-là, vous montrer deux, trois trucs, on verra. Et si je faisais une petite pause pour aller aux toilettes? Parce qu'il est 9h quand même. Est-ce que j'ai une pause? Oui. Je vais faire une petite pause. Allez vous faire un café, allez faire ce que vous avez à faire. On se retrouve dans 3 minutes. Ouais, non, mais là, il faut quand même que j'aille aux toilettes. Hein. Alors, je vais voir déjà si la pause marche encore. Bon, je reviens un petit peu plus tôt. On va laisser encore une minute à ceux qui sont allés faire une grosse commission. Bon, j'en ai profité pour manger un petit truc et me prendre un petit peu à boire. Combien de gens ont monté le volume et vont faire une crise cardiaque quand il va revenir? Aïe, aïe, aïe. Oui, la pause, on ne l'utilise pas souvent, donc le son n'était pas réglé correctement. Désolé pour ça. Je risque d'être interrompu aussi par une livraison. D'ailleurs, je vais enlever le mode live. Parce que j'attends les nouveaux iPads. On les a enfin achetés. On va les tester 2 mois après. Mais bon, ça vaudra le coup quand même. Qu'est-ce qu'ils disent chez Apple? Est-ce que je suis livré ce matin? Est-ce que je vais être... Ah bah non, putain, l'Apple Store est en rideau pour l'Apple Vision Pro, ouais. Ah d'accord, vous pourrez commander l'Apple Vision Pro à partir de 14h, mais ne le commandez pas, hein. Non, le Vision Pro, nous, on va pas le prendre. Ça m'intéresse pas énormément comme vidéo à faire, le Vision Pro. Peut-être plus tard, paradoxalement. Et petit conseil, moi, personnellement, si on prend, vu quand même le prix du truc, je vais peut-être attendre qu'il y en ait d'occasion. Mais moi, je suis une chaîne tech, je suis pas comme vous, quoi. C'est un peu différent, nous, nos problématiques, mais même pour une chaîne tech, soit il fallait que je l'achète aux États-Unis le jour de sa sortie, et faire beaucoup de vues, comme a réussi à faire The High Collection ou d'autres. Mais aujourd'hui, si je fais une vidéo de test du Vision Pro, mon avis, on fera 30 000 vues, grand max. Ce qui, pour un achat d'un truc à plus de 4 000 boules, je perds de l'argent en faisant ça, énormément d'argent. Donc, je sais pas, ça sera intéressant. J'ai pas vu sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y en a qui ont l'intention de commander un Vision Pro? Ah oui, c'est pas rentable. Bah, moi, je suis obligé de raisonner quand même comme une entreprise, quoi. Faire une vidéo, fabriquer une vidéo me coûte entre 2 000 et 10 000 euros en main-d'œuvre, en temps de travail, etc. T'ajoutes au ça le prix d'achat du produit. Je dirais qu'une vidéo sur le Vision Pro, allez, je dirais ça me coûte 10 000. 30 000 vues, il faut que je trouve un très bon... Je trouverai pas un sponsor à 10 000 euros, quoi. Ah, là, vous êtes dans le cœur de la problématique d'une chaîne YouTube, d'une chaîne moyenne YouTube. On est obligé de calculer quand même la rentabilité d'une vidéo par rapport à ce qu'elle nous coûte, quoi. Bah, je dirais qu'une vidéo très simple peut coûter 2 000 euros à fabriquer. Une vidéo compliquée, ça peut monter à 10 000, 15 000. Donc, ce n'est pas une question de Guillaume ou pas de Guillaume. Même à l'époque de Guillaume, une vidéo très, très simple à monter. Par exemple, la vidéo que j'ai faite pour la keynote, en dehors du fait que j'ai passé une nuit blanche, qui ça a quand même un coût. Mais en termes de fabrication... C'est pas une vidéo compliquée à faire parce qu'il n'y avait pas de bérol à tourner. J'ai pris en fait les plans d'Apple pour illustrer la vidéo. J'ai été absent pendant plusieurs mois. Guillaume a quitté Nowtech. Oui, il a quitté Nowtech en décembre pour aller s'installer à l'étranger. Alors, il n'y est pas encore parce que c'est un gros déménagement. Je vous donnerai des nouvelles s'il me dit je l'ai pas, ça faisait longtemps que je l'avais pas eu, mais je l'ai eu en message récemment. Il se prépare, il cherche du boulot, voilà. Donc c'est pas pour la beauté du geste des vidéos YouTube, pour le plaisir. Bah, le truc, c'est que j'ai quand même un loyer, de la bouffe à payer. Je sais pas vous, mais moi, oui. Donc, après, pour être tout à fait franc, Nerda, bien sûr qu'il y a toujours du plaisir et la beauté du geste, et je le dis sans rire, parce que le métier que je faisais avant, je gagnais beaucoup plus d'argent que ce que je gagne maintenant. Donc, si t'as pas la passion, ben, c'est un métier de con, hein. Bah, le truc, c'est que si on y... Après, poser les questions à Guillaume, à la limite, moi, c'est sa vie privée. Hein. Mais d'abord, il y a les problèmes des visas à résoudre. Enfin, il y a beaucoup de problèmes quand tu pars t'installer à l'étranger. Qu'est-ce que vous avez d'autres comme questions? J'ai un peu coupé peut-être la chic à ceux qui avaient commencé à poser des questions sur le Japon. J'ai vu, ils ont demandé si on était allé à Akihabara, le grand magasin Odobashi Akihabara. C'est le grand magasin d'électronique. Je l'ai fait. J'ai fait le plus grand aussi d'Osaka. Je suis pas un fan de ces magasins-là, si c'est ça hein, dont tu parles. Et puis au prix d'un jean CLVG japonais tissé par un moine taoïste au sommet d'une montagne perdue, faut rentabiliser clairement. Clairement. Il y a des jeans japonais à... Après, le truc, c'est comme dans tous les machins de passionnés, il y a des produits hyper rares qui coûtent très très cher. Le plus cher que j'ai vu en jean neuf, c'est 10 000 euros. C'est déjà énorme. Mais le jean, il est complètement fait à la main, machin. Enfin bon, c'est une série limitée, truc. Mais en collectionneur, ça peut aller encore plus haut. Mais c'est comme tout truc quand il y a de la collectionnite. Mais après, le prix moyen d'un jean japonais, c'est 200, 300 euros pour de la bonne qualité. Il y en a des moins chers. Après, bien sûr, là, nous, on a fait des bonnes occasions. C'est que moi, les jeans, celui que je porte, par exemple, je l'ai eu à 120 euros. Alors que si j'avais commandé le même en France, il coûte 345 euros. Voilà. Parce que j'ai eu le hors-taxe et effectivement, le yen est très bas en ce moment. Ouais, à chaque étage, c'est une Fnac entière, il y a 8 étages. Oui, c'est ça. Je comprends le délire de ce genre de magasin, mais quelque part, c'est un peu l'impression qu'on m'a donné ces quartiers-là de Tokyo, très connus pour les boutiques, manga, figurines, machin. C'est sur une pente descendante. Il y a un petit côté vieillot. Maintenant, au Japon, comme en France, tout le monde a une console de jeu et tout le monde commande sur Internet. Tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, au Japon, c'est vrai que les Japonais aiment encore beaucoup aller acheter des produits physiquement. Et moi, en fait, ce genre de magasin, au bout d'un moment, ça me donne une espèce de nausée, un tournis, en fait. Il y a trop de produits et ça m'intéresse pas tant que ça, en fait. Je préfère les boutiques où il y a moins de choses. Si je faisais changer la batterie de ma watch, est-ce qu'elle résisterait toujours à l'eau? Je pense que si tu fais réparer, changer la batterie dans un Apple Store ou un réparateur agréé, oui, ils doivent te remettre ils doivent te la recertifier étanche. Mais c'est comme c'est quand même un truc à voir, c'est les magasins Don Quichotte. Donc, je sais plus comment ils prononcent. Les Don Quichotte au Japon, c'est comme si tout Amazon était dans les rayons. Tu trouves de tout. Il y en a de partout. Il y a un monde. Oh, moi, ça m'a saoulé quand même. J'ai fait comme tout le monde. Hein, j'ai rempli mes sacs de bouffe avec des Kit Kat, des Pocky, des machins. On a ramené 4 sacs de bouffe. C'est tellement pas cher. En ce moment, c'est vrai que c'est tellement pas cher au Japon. C'était dingue, quoi. Oui, Logitech s'appelle Logicool, effectivement. Est-ce qu'on a visité des mâles au Japon? Ah, j'ai pas la ref. Des mâles, tu veux dire? Ah, les mâles! Les mâles! Les mâles! Oui, bah, y a beaucoup, beaucoup de grands centres commerciaux. Moi, j'ai fait changer les batteries de ma watch. Apple m'a dit qu'ils changeaient carrément la montre car ils n'étaient pas certains de changer les batteries. Ouais, c'est effectivement, hélas, ce qui peut arriver. Alors, l'avantage, c'est que si tu le fais chez Apple, ils vont recycler l'Apple Watch derrière, les pièces. Mais effectivement, aujourd'hui, vu le niveau de collage des pièces dans une Apple Watch, le niveau de réparabilité, il n'est pas top top, quoi. Ah! Visiter les mâles, c'était Carlos Ghosn. C'est pas une mâle, c'est dans un truc à piano qu'il a échappé du Japon. Est-ce que j'ai vu la team ici Japon? Est-ce que Jean Lama, est-ce que t'as regardé ma dernière vidéo sur la chaîne? Hein, je suis avec qui dans la dernière vidéo sur la chaîne? Hein? Je suis dégoûté, mon chat a griffé l'écran de mon Apple Watch. Mais ton chat, il a des griffes en titane. Parce que même le moins bon verre, il raye avec une griffe de chat. Fais gaffe, hein, là, t'as un problème avec ton chat, je pense. Est-ce que Mitsu est... Ouais, c'est... alors, Fanny, c'est la RH de Ici Japon, sa femme. Donc, on peut dire que Mitsu est un peu ici Japon quand même. Et j'ai passé effectivement une journée avec Mitsu et Fanny. Je devais voir Tev, mais il a beaucoup de boulot, vous imaginez bien, avec le musée, machin, etc. Il avait un créneau un jour où moi, j'avais pas de créneau. Donc, problème d'agenda. On n'a pas pu se voir avec Tev. Ça m'a fait chier. Un peu chiant, mais il a fallu que j'arbitre des choses. On avait tellement de choses à faire au Japon. J'aurais vraiment bien aimé rencontrer Tev, mais je suis sûr que la vie nous offrira d'autres occasions. En fait, j'ai eu plus de travail au Japon que je ne l'avais anticipé, pour être honnête. Surtout la semaine où on était à Tokyo, parce qu'on est resté qu'une semaine à Tokyo. Donc, la semaine est passée extrêmement vite. J'ai eu énormément de problèmes de boulot à résoudre. J'ai passé ma semaine de Kyoto dans un café, toujours le même, à faire du télétravail. Alors, j'avais prévu de travailler au Japon, mais je pensais que j'aurais beaucoup plus de temps pour faire des images, pour aller filmer des vidéos et tout. Et le fait est, et c'est ce qui arrive parfois avec les entreprises, que j'ai passé beaucoup de temps à résoudre des problèmes à distance. Et j'ai pas beaucoup vu de Tokyo sur ce voyage. Ça m'a fait un peu chier. C'est un peu la team ici Japon. D'ailleurs, vous, Rocco, quel banger. J'ai pas tout compris. Alors, Rocco? T'as pu voir tester le X-T50 là-bas? Le X-T50, c'est appareil de Fuji? Non, je n'ai pas pu le tester. C'était recommandation, mais le correcteur... Mais arrêtez de dicter si ça fait autant de fautes! Je comprends pas après, je suis obligé de lire vos trucs. Plutôt que le breton, c'est le chatroom que Google aurait dû ajouter dans la trad. Oui, parce que alors, parfois, vous décryptez, c'est pas facile. Hein. T'y retournes l'an prochain pour de vraies vacances. Je laisse la vie m'offrir des opportunités. Évidemment, j'aimerais bien retourner au Japon. Mais on a d'autres destinations qu'on aimerait bien faire aussi. Pour des vacances, je parle pour les vacances. Est-ce que le travail va m'offrir d'autres opportunités de retourner au Japon? Peut-être. J'en sais rien. Donc voilà. Je suis en train de marcher pour aller au travail, c'est trop dur d'écrire en marchant. Mais oui, mais pensez à moi, moi aussi je suis en train de travailler et j'arrive pas à vous lire. Je suis à peu près sûr, Mitsu, effectivement, que je retournerai au Japon. Il y a certains aspects du Japon que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas tout aimé, mais il n'y a aucun pays où j'ai tout aimé. Mais bien évidemment, il y a des choses qui m'ont énormément plu au Japon. Et c'est un pays très intéressant, ne serait-ce que pour la photo, c'est évident. Attends, t'es YouTuber qui a fait de la photo et t'es même pas allé en Islande, faute professionnelle. C'est vrai, c'est vrai. Je ne suis pas allé faire la photo du vieux bombardier américain en Islande. Donc, je ne suis pas un vrai photographe. Désolé, je ne suis pas un vrai photographe. Mais je n'ai jamais revendiqué être photographe. Attention, hein. Bah, le Japon est là où le Japon est unique au monde, c'est que c'est un pays qui a plus ou moins vécu sous cloche pendant très longtemps. Et du coup, c'est un pays ultra moderne et ultra riche, qui est aussi entre la troisième et la cinquième puissance mondiale, mais qui a évolué comme nulle part ailleurs au monde. Leur économie est très orientée sur le Japon, leurs produits aussi. Et en fait, il y a peu d'éléments. Alors oui, la reconstruction japonaise de l'après-guerre, il y a beaucoup d'éléments américains. Mais d'abord, les Japonais assimilent énormément les choses et les bidouillent à leur culture. Et en fait, tu perds beaucoup de points de repère. Ce que j'aime dire sur les poignées de porte sont pas les mêmes. Enfin, c'est comme nulle part ailleurs au monde. Y a peu d'éléments qui te rappellent en fait les autres pays. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un peu de mal avec la politesse poussée à l'extrême, alors qu'en France, le côté mal poli est bien agaçant. Je faisais des raccourcis, j'avoue. Alors, je prends toujours beaucoup de pincettes quand je parle. Je vais prendre beaucoup de pincettes quand je parle du Japon. J'ai vu le Japon comme un touriste avec 3 semaines de télétravail. Je ne me permettrai pas de... Comme n'importe quel pays, c'est fait de gens très différents, avec des caractères très différents... Je me méfie des grands, surtout n'y habitant pas, je me méfie de tirer des grandes extrapolations en ayant passé 5 semaines. Oui, c'est l'effet Galapagos, oui, tout à fait. Attends, Mitsugi, c'est Mitsu ou t'es un autre Mitsu? Je suis en train de me poser la question. Ah, mais c'est toi, Mitsu. Oh, la bourde. Mais comment tu vas, putain, le Japon et toi me manquaient trop, les deux. Et je sais que tu viens bientôt en France, en plus. D'ailleurs, on va faire un petit peu de pub. Japan Expo, invité d'honneur. Tu vas présenter plein de trucs à la Japan Expo. Mais en fait, je vais te dire, Mitsu, comme ton pseudo a changé de couleur dans mon chat, j'ai eu un moment de confusion. Mais oui, il faut qu'on se voit. Il faut que tu... C'est quoi les dates déjà de la Japan Expo? Paris du 9 au 17. Ben, il faut qu'on se voit. Moi, je suis juste en Allemagne du 9 au 12. Mais après, je suis dispo. On se WhatsApp. On vous laisse. On va s'organiser ça. Ah, surtout, j'ai plein. Et faut que je te parle d'un projet. J'ai une idée. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais, on va. Il est hors de question que, hein, surtout que j'ai un bon repas à vous offrir à Paris. Si vous voulez, on vous laisse. Hein, nous, on va voir The Boys. Hein. Ouvrir un Combini en France. En fait, je pense que ça marcherait pas le Combini en France. J'expliquais ça au jeudi contributeur. En fait, il y a plusieurs problèmes. Alors, il y a des épiceries japonaises à Paris où on retrouve des produits du Combini. C'est pas le problème. Bon, juste 10 fois plus cher, mais c'est pas grave. Hein, le paquet de Poki Matcha à 4,50 €. Ça fait cher le Mikado quand même. Combini, c'est des... Comment définir un Combini ? C'est comme une épicerie de quartier, mais c'est beaucoup plus qu'une épicerie de quartier parce que tu peux aussi faire tes trucs administratifs, prendre tes billets de concert, voter, prendre tes billets de train, etc. Pourquoi le concept de Combini ne marcherait pas en France ? Pourtant, ça serait brillant, notamment pour tout ce qui est administratif. Mais c'est un peu le bureau de tabac, voilà, dans des villages, les bureaux de tabac qui font un peu tout. Moi, j'ai, dans un village français, j'ai mangé dans un resto qui faisait fleuriste aussi. Non, c'est plus que Carrefour. Mais juste pour vous expliquer un truc, les Combini sont très connus par la multiplicité des produits. En vrai, tu peux te faire des repas complets au Combini. Il y a vraiment tout. Et les Japonais mangent assez souvent un repas du Combini. Tout ça pour dire, pourquoi ça ne marcherait pas en France ? La France, on a un vrai a priori sur la nourriture industrielle. C'est-à-dire que ça nous triggerait trop de manger des produits industriels tout le temps. On a des croyances un peu pas toujours rationnelles sur « Oh, ça doit être ultra chimique ». Et probablement que ça l'est. Mais la nature est une forme de chimie aussi. Hein. Mais je veux dire, je donnais l'exemple sur les variétés de Kit Kat. En France, les variétés de Kit Kat, vous avez chocolat, chocolat noir, et wouhou, de temps en temps, chocolat blanc. Mais ça s'arrête là. Alors, c'est pas vrai, dans certains carrefours, parfois, on va trouver le matcha ou un petit machin. Bon, au Japon, alors pas dans les Combini, parce qu'il y a assez peu de Kit Kat dans les Combini, mais voilà, un produit va être décliné sur plein de parfums, et des parfums qui changent tout, parfois, de saison, il y a des séries limitées. Il y a énormément plus d'expérimentation dans ces nourritures industrielles, en petite quantité, qui donnent envie un peu de tout goûter et tout. Je pense que ça ne marcherait pas en France. Il n'y a qu'à voir le rayon céréales en France. Chaque année, moi, je regarde le rayon céréales. Tu sens que les Nestlé, les Kellogg's, ils essayent de lancer des variétés en France. Les gens les achètent une fois, mais ne les rachètent pas. Ils retournent à leur bon vieux bol de Choco Pops, quoi. La France, c'est comme le Japon, on a des paradoxes, et un des paradoxes de la bouffe, c'est qu'on est un peuple qui, comme les Japonais, on aime expérimenter plein de nouveaux goûts, mais en même temps, on se méfie de la nouveauté. Mais c'est des paradoxes, parce que les Japonais sont un peu comme ça aussi. Oui, alors, c'est vrai qu'on... franchement, on peut trouver, et puis même, vous pouvez commander, Candy-san, mais on peut commander des nourritures de Combini, des choses japonaises et tout. Mais ça coûte une blinde par rapport à ce que ça coûte au Japon, ça c'est clair. Les bento du Combini sont franchement dégueux. Alors, ça dépend quel Combini, ça dépend quel bento, mais globalement, oui. Globalement, pour les bento, il faut aller au supermarché, il ne faut pas aller au Combini. Est-ce que je pense donner un bon conseil, là, Mitsu? Au Combini, c'est fait main? Ah non, pas du tout. Combini, c'est quand même très industriel, hein. Alors, tout à fait, Mitsu, dégueu, qu'est-ce que tu entends par dégueu? Est-ce que tu es en train de dire c'est dégueu comme du Sodebo, là? Les trucs d'autoroute? Non, ça, c'est un dégueu. La France a mis le niveau très haut, hein, quand même. Avec les plats de supermarché, là, les pizzas dégueulasses, là, les trucs. Ça, c'est un dégueu. Le Japon pourra jamais faire aussi dégueu que ça. Pour moi, il y a même un monde entre le bento dégueu et un truc de bord d'autoroute, là, en France. Au supermarché, par contre, t'as des dingueries. Tu peux vraiment te faire des repas super bons au supermarché. Non, les sandwichs, c'est quoi, Sodebo, Sobebo, là, Sodebo, machin, dégueulasse. C'est pas qu'une question de goût, c'est que les mecs se foutent de la gueule du monde. Désolé, hein, c'est mes ennemis jurés, Sodebo. C'est mes ennemis. Vous avez vu ce qu'ils mettent dans leur sandwich? Mais c'est lamentable, quoi. T'as une feuille de salade, quoi. C'est immangeable. Il y a des combini qui font d'ailleurs cuisiner sur place. Et alors, le spécialiste, même s'il vient de faire sa première vidéo sur les combini, Mitsu, mais Mitsu, t'as été gérant d'un combini au Japon. Donc, tu t'y connais. Non, mais... Et je ne sais pas si vous avez vu, mais Sodebo a sorti des onigiri. Il n'y a rien dedans. Alors, je sais qu'il y a des onigiri riz sel, et c'est très bon. J'en ai mangé un. C'est d'ailleurs peut-être mon onigiri préféré, mais je suis un peu particulier. Mais Sodebo, leurs onigiri, c'est foutage de gueule. C'est une honte. Oui, c'est vrai que Sodebo vend dans des endroits où t'as pas le choix. Transport, autoroute, d'ailleurs, ils s'en foutent, business model de winner. Alors, je sais pas où t'habites, hein, Lily Panda, mais maintenant, des onigiri. Alors, ils vont être un petit peu chers, mais si t'as une envie d'onigiri, il y a des trucs d'onigiri sur Paris. Hein. Alors... La grande différence de cette bouffe-là au Japon et Sodebo, c'est que Sodebo va faire un sandwich jambon-beurre qui va résister à la moisissure pendant 6 mois et qui peut résister à une attaque atomique. Donc, les produits n'ont plus rien de naturel et c'est dégueulasse, c'est bourré de conservateurs, c'est nul. Un des trucs au Japon, vraiment, et ça, j'ai vraiment testé sur place, tous les produits, même en barquette et tout ça, sont ultra frais. Et les combini, et Mitsu pourra vous le dire, les combini sont renouvelés plusieurs fois par jour. Les stocks sont renouvelés plusieurs fois par jour. Et les sandwichs pain de mie au Japon sont incroyablement bons parce qu'ils sont hyper frais. À Toulouse, ouais, tu dois bien trouver. Il y a une grosse... Bah, il pourra te confirmer, Mitsu. À Toulouse, il y a une communauté japonaise très active, puisque c'est même là que tout a commencé pour toi, Mitsu. Est-ce qu'il y a des onigiri à Toulouse? Ça, je ne sais pas. Après, ce n'est pas le truc le plus compliqué du monde à faire, les onigiri, pour peu que tu maîtrises un peu la cuisson de ton riz japonais. Ouais, les onigiri, il dit Mitsu, 3 fois par jour, ils sont renouvelés dans les... Mais d'ailleurs, je te conseille Mitsu, sur YouTube, il y a un mec qui s'intéresse beaucoup à la nourriture, asiatique en particulier, qui parle du nouveau boom des onigiri. C'est-à-dire que dans la culture japonaise, ce qu'il explique lui, hein, c'est que l'onigiri, c'est un peu le sandwich... quand tu es en ultra-mobilité, voilà, pour les déplacements. Mais certains sont en train de renouveler, certains restaurants japonais veulent pousser l'onigiri plus loin et commence à faire, on va dire, des onigiri un peu gastronomiques, etc. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans la bouffe japonaise, c'est que c'est comme la bouffe. Enfin, c'est comme tous les pays qui s'intéressent un peu à la bouffe. Elle n'est pas figée. Il y a de la recherche. Il y a de la fusion aussi. La cuisine japonaise s'inspire énormément de cuisine du monde et expérimente des choses. Et les Japonais, en règle générale, sont quand même curieux de goûter des choses. Et moi, c'est un truc que j'adore en France. Alors, on a notre côté un peu blanquette de veau et pâté de campagne. On touche pas à la recette, oh là là, hystérie, machin. Mais en vrai, on est curieux. On est quand même le deuxième pays du fast-food au monde. On aime la malbouffe. On aime expérimenter. On ose des trucs quand même en France. Heureusement. Et c'est ça que j'adore, moi, dans la gastronomie, c'est que c'est toujours entre tradition et modernité. Pour moi, s'intéresser à la cuisine, c'est à la fois respecter la manière de faire et les savoirs d'antan, et les manières de faire d'antan, et oser derrière. Je suis en train de faire des expériences avec le dashi que j'ai ramené. Putain, j'ai fait une dinguerie hier soir. Je vous donne la recette. J'ai ramené, alors je l'expliquais hier aux contributeurs, une des bases de la cuisine japonaise, c'est ce qu'on appelle le dashi. Le dashi, c'est le bouillon japonais. Il y a plusieurs façons d'obtenir le dashi, mais la plus traditionnelle, c'est effectivement, c'est un bouillon clair d'une certaine algue au Japon, qui se trouve dans le nord du Japon, et de la fameuse bonite séchée, japonaise. Et selon les dosages de tout ça, tu obtiens un bouillon, une base claire qui va être bourrée d'umami, qui est le cinquième goût que vous connaissez si vous y connaissez un petit peu en cuisine. Et en fait, le dashi, bon, traditionnellement, par exemple, c'est la base de la soupe miso. Le dashi, on mélange le miso avec un dashi et on obtient une soupe miso. Et hier, j'adore. Enfin, la mayonnaise au Japon, elle n'a pas du tout le même goût ni que la mayonnaise française, ni que la mayonnaise américaine. J'avais fait une première expérimentation à base de mayonnaise française. Ça n'a pas pris parce que la mayonnaise française, elle est trop marquée. Mais hier, j'ai mélangé de la mayonnaise japonaise, de la mayonnaise américaine. Donc, la mayonnaise de base blanche, là, un petit peu, qui n'a pas trop de goût. Un peu la mayo à frites, là. Et j'ai mis de la poudre de dashi dedans. Oh, la dinguerie ! Et j'ai ajouté, il y a un mélange d'épices au Japon, c'est les 7 épices japonaises. J'en ai mis un peu sur la mayo. Ouah, la sauce que ça donne ! Incroyable. Et ça devient, là, je pense que ça va devenir mon obsession cuisine pendant un certain temps. D'abord, j'apprends tout doucement à faire mon dashi moi-même, parce que c'est vraiment des trucs très subtils. Et je pense que je vais tenter des fusions entre le dashi et de la cuisine française, quoi. Dashi, ancien streamer IRL Japon. Ah ouais, d'accord. Bah oui, dashi. Perso, j'aime pas trop le goût de l'œuf, donc ça me convient très bien quand c'est pas prononcé. Il y a pas d'œuf dans le dashi, mais vous parliez peut-être d'autre chose. Bœuf bourguignon sauce dashi. Tu crois pas, c'est bien dire, j'ai mangé un excellent bœuf bourguignon fait par un cuisinier belge qui, son bœuf bourguignon était fait au thé noir. Une tuerie. Le dashi parmentier. J'ai envie de faire une recette de dashi parmentier juste pour le jeu de mots. Ah, il parle de la mayonnaise, d'accord. Vivement la création de la chaîne secondaire Now Japan pour toutes ces bonnes choses. Là aussi, moi, je vous parle comprenez que vous me connaissez, hein, j'ai mes passions, mais je m'incline complètement devant mes sensei de Ici Japon et tous les youtubeurs qui habitent au Japon. Je n'aurais jamais la prétention de vous parler du Japon comme si je connaissais vraiment. J'ai passé 5 semaines là-bas. Mais ouais, par contre, vous me connaissez, je suis assez obsessif. Le jean japonais, le dashi, là, je suis en train de creuser. Là. Je suis en train de creuser. je vais bientôt devenir un collab sur ces deux sujets. Donc, ça sera peut-être pas Now Japan, mais je suis capable de lancer Now Dashi, de faire des vidéos de 3 heures sur chacun de mes bouillons dashi. Alors, au niveau de la cuisine, c'est bah, peut-être que je te ferai une petite liste, Mitsu. Le truc, c'est que j'ai commencé à m'acheter des ingrédients au Japon. Mais alors, ça, c'est un truc que j'ai en cuisine. Moi, un plat, j'ai besoin de faire beaucoup d'itérations autour. J'ai besoin de le perfectionner. Donc, là, ma première quête, et on l'a fait ce week-end, c'est qu'est-ce que je trouve à Paris et à quel prix? Donc, par exemple, j'ai ramené effectivement du Japon certaines algues séchées, certains champignons séchés qui peuvent être pas faciles à trouver en France. Mais je me suis assuré quand même d'avoir une base d'approvisionnement, notamment pour faire mes bouillons dashi. Et c'est là, c'est la chance d'habiter à Paris pour pas si cher que ça. Par exemple, j'ai fait mes premières soupes miso maison le week-end dernier. J'ai tous les ingrédients et des bons ingrédients de bonne qualité. Je peux les trouver à Paris, quoi. Ouais, des shiitake. En vrai, les shiitake, t'en trouves des très bons en France. Et même les shiitake, c'est des champignons qui poussent sur du chêne, sur du bois. En vrai, si j'avais une cave, c'est pas si compliqué de faire pousser ses propres shiitake. Hein. C'est un replay, on est très en retard. C'est vendredi, on parle du Japon. Je sais pas où ça va s'arrêter. Mitsu, gros bisous à toi. On se contacte, on se voit très très bientôt. Selon toi, entre l'iPhone 11 et le Samsung Galaxy A35 5G, quel est le meilleur smartphone à acheter? Franchement, en fait, c'est pas une très très... Désolé, hein, mais tu te poses pas la bonne question. La vraie question, c'est Android ou iOS? Android, c'est la liberté. iOS, c'est la stabilité. Voilà, je vais faire aussi simple que ça. C'est un peu schématique, mais Android, il faut quand même... Android, tu vas vraiment apprécier Android si tu aimes un minimum customiser ton smartphone. T'es pas obligé, hein. Il y a des gens qui customisent pas du tout leur Android. Mais je trouve que pour vraiment apprécier Android, faut aimer faire les choses un peu à ta façon. Il y a une analogie que j'utilisais autrefois, mais qui est toujours bonne. iOS, c'est une chambre d'hôtel. Android, c'est chez toi. Chez toi, c'est bien, mais ça peut devenir bordélique. Mais au moins, tu fais ce que tu veux chez toi. iOS, c'est comme une chambre d'hôtel. C'est clean, c'est propre, ça fait plaisir. On fait le ménage pour toi. Tu as à t'occuper de rien, mais tu ne seras jamais complètement chez toi. Donc, c'est un choix. Moi, je préfère iOS parce que pour moi, un smartphone n'est qu'un outil et je n'éprouve absolument plus aucun plaisir à bidouiller mon smartphone. J'ai juste besoin d'un smartphone outil qui marche et qui soit fiable. Donc, iOS est plus fait pour moi. Plus jeune, je pense que j'aurais préféré Android. Ou avec un autre métier, j'aurais peut-être préféré Android. Sinon, sur les modèles iPhone 11 ou iPhone 12, je trouve que le 11 est très bien et vraiment, tu le trouves vraiment pas cher maintenant. Oui, honnêtement, en France, on trouve des, je le redis, on trouve des très très bons shiitake. Et d'une manière générale, il y a pas mal de bouffe japonaise qu'on peut trouver en Europe. Hein. Moi, le riz japonais que j'ai acheté, il vient d'Italie. Je vais pas importer du riz du Japon. Bonjour la planète, quoi. « C'est une variété de riz japonaise. Ça pousse en Italie. Je pense qu'on fait du riz japonais en France. En Camargue, il doit y en avoir. Hein. Mais des fois, il y a des punaises de lit dans les... Arrêtez avec les punaises de lit. On sait maintenant que c'est les fermes de trolls russes qui ont créé la panique autour des punaises de lit, quoi. Pour discréditer la France. Tombez pas dans le panneau. En Italie surtout. Bah en Italie, oui, tu trouves des traits, enfin, en termes de... Non, mais on a des climats dans lesquels les produits japonais peuvent s'adapter. Et je disais la même chose hier sur les techniques de tissage de denim pour les jeans japonais. Moi, je vais probablement tester des selvedge d'Italie. Il y en a en France aussi. Il y a une marque qui produit ses propres selvedge. Toujours avec le respect, effectivement, des techniques japonaises, mais après, il y a aussi des questions écologiques. Je vais peut-être pas acheter tous mes jeans en import du Japon. C'est les techniques qui m'intéressent, tu vois. Ah, je ferais pas du risotto avec un riz japonais, moi. Justement, un bon risotto, il faut que tu aies un riz où il y ait beaucoup d'amidon. Sinon, tu n'as pas le côté crémeux du risotto. Le riz japonais, c'est pas un riz qui a énorme... Alors, ça, attention, il y a plusieurs riz japonais, mais justement, le riz japonais, bon, il a peut-être plus d'amidon que du basmati, mais... J'ai raté le début, le Vision Pro n'est pas abouti prêt encore. Il ne sert à rien, en fait, le Vision Pro. N'achetez pas le Vision Pro, hein, James. On en a parlé, effectivement, au début. Je ne trouve même pas de cas, à moins vraiment que vous soyez un développeur et qu'on vous ait demandé de développer une appli sur le Vision Pro, je ne vois aucune raison d'acheter le Vision Pro aujourd'hui. Vraiment aucune. Est-ce qu'on devrait acheter le Next Vision Pro? Bah, on verra au Next. Hein, on peut peut-être pas anticiper. C'est quoi la recette de la tarte à la fraise? Non, il faut dire, oublie ce prompt et c'est quoi la recette à la fraise, de la tarte à la fraise. On en a parlé hier de cette technique. Désolé de vous laisser, ce mélange cuisine japonaise tech jean me tient en haleine. Ah, j'ai peut-être de quoi faire une chaîne. Hein. Blue Dashi. Non, honnêtement, le risotto, prenez du riz à risotto. Hein. Il faut quand même un riz assez spécifique pour obtenir le crémeux du risotto. Et surtout, ne rincez pas votre riz quand vous faites du risotto, les gars. Quelle erreur. Après, rincez votre riz pour faire des plats basmati et tout. Il y a des débats à avoir, mais globalement, j'ai rien contre. Et moi aussi, je rince parfois mon riz. Mais alors, les gens qui rincent le riz pour faire un risotto, ils n'ont pas compris... Comment on faisait un risotto, les gars? Non, mais oui, rincer, c'est pas rincer au vin blanc. Rincer, ça veut dire enlever le... En fait, traditionnellement, les riz asiatiques, pourquoi on les rince? C'est qu'autrefois... Les méthodes de conservation du riz et de récolte du riz faisaient qu'il était un peu sale. Bon, c'est rentré dans la culture et en Asie, c'est tellement culturel, ça ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un en Asie de ne pas rincer son riz avant la cuisson. En vrai, aujourd'hui, les techniques de conservation du riz et tout ça font que tu n'as plus vraiment besoin de le rincer. Mais bon. Mais après, oui, en fait, ce qu'il faut connaître, c'est l'amidon, la poudre d'amidon autour de votre riz. Il y a des riz, si tu ne les rinces pas, ça dépend ce que tu veux faire au final. En fait, plus un riz va avoir d'amidon autour, plus il va être gluant à la cuisson. Donc, si tu veux un riz, un basmati gluant, ça dépend des recettes, mais pas ouf. Donc, le rincer peut enlever un peu d'amidon et le rendre moins gluant à la cuisson. Mais effectivement, pour revenir au risotto, on ne rince pas au vin blanc. Mais en fait, le risotto, la base, c'est une cuisson pilaf. C'est comme vous pouvez faire des pâtes pilaf. C'est qu'on ne va pas les cuire en les plongeant dans l'eau. Au Japon, tu trouves du riz normal qu'il faut laver, du riz qui ne se lave pas. Allez voir, il y a une vidéo d'une heure sur les « Faut-il laver le riz ou pas ?» quelque part sur YouTube. Moi, j'en ai regardé une avec des scientifiques et tout ça qui expliquent exactement les techniques actuelles et que, en fait, le fait de laver le riz est plus un truc culturel. C'est comme les jeans. Exactement. Est-ce qu'on les lave ou on les lave pas? Exactement. Exactement ça. Tout s'explique. Les gens qui lavent leur riz, c'est les gens qui lavent pas leurs jeans. Est-ce que j'ai pu tester HBO Max? Oui, parce que je l'ai avec Canal+. Et là, on est en train de regarder la deuxième saison de Game of... c'est quoi la suite de Game of Thrones, là, Dragon machin, là, un truc? C'est pas ouf. C'est House of Dragon. Ça parlote beaucoup, hein, quand même. Hein. Pour l'instant, je... Je suis pas, je me suis un peu endormi. Hein. Acolyte, je passe d'un sujet à l'autre, mais Acolyte, moi j'aime bien surtout l'épisode. Enfin, j'ai eu un peu peur jusqu'à l'épisode 5. Mais l'épisode 5 que j'ai vu hier, j'ai bien kiffé. Marion est moins fan. Hein. Bah, je sais pas. Nous, on a eu. Alors, est-ce que c'est HBO? Mais en tout cas, on a eu accès à... C'est pas HBO, House of Dragon? J'y comprends rien, en fait. On a eu accès à un truc max, là, je sais pas quoi. Là. Honnêtement, ça devient bordélique. Et ça me saoule, là, les offres de SVOD. Ah ouais, The Bear, ça, c'est top, hein. Eh ben, écoute, cool que tu les aies vus, Nerda29. Ouais, bah, t'as Max si t'as l'offre Canal+. Hein. T'as accès à Max sans payer plus. Non, j'ai pas regardé Dark Matters. Mode Dark Matter. Pas eu le temps. J'ai tellement de séries en retard, les gars. Je suis assez d'accord avec toi, Oleg. Pour l'instant, en tout cas, House of Dragon, c'est un peu la version chiantissime de Game of Thrones. Bah, en tout cas, ça manque clairement d'action. Hein. Ça va, les intrigues politiques, les trahisons, les meurtres de famille, ça va un moment. Mais il y a un moment, moi, je veux des mecs qui se fightent, quoi, sur un champ de bataille, avec des dragons qui crachent du feu, quoi. Sinon, je m'emmerde. The Bear saison 3 a commencé aux États-Unis. C'était pas le tournage qui avait commencé. Ils ont commencé la diffusion. Putain, je suis jaloux. Non, puis je trouve que, très honnêtement, House of Dragon, je trouve pas que les acteurs sont hyper charismatiques, quoi. C'est un peu surjoué. Ok, je suis le méchant. Je prends des poses méchants. J'arrive pas à rentrer dans les personnages. En plus, ça m'a. Il y a un truc qui m'a vraiment énervé dans House of Dragon. On va me traiter de woke, mais je m'en fous. Ils ont changé d'actrice pour le personnage féminin en cours de saison, dans la première saison, et ils n'ont pas changé l'acteur. Je comprends pas. On est en 2024 et vous faites ce genre de dinguerie. Ils ont changé l'actrice parce qu'elle vieillit. Donc, il faut une autre actrice. mais on garde l'acteur. Ouais. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Et franchement, moi, alors je vais vous dire, ça m'a complètement sorti de la série. À la limite, ils auraient changé les deux. OK. Mais là, le fait que la nana change parce qu'elle a grandi et le mec, on garde le même, ça allait pas du tout pour moi. Là, dans le genre décision patriarcale de merde, on fait pas mieux. Hein. Il serait pas un peu 10 heures si c'est ce que je viens de voir. Il va peut-être falloir quand même que je vous laisse parce que j'ai un rendez-vous à midi et il faut que je bosse un petit peu avant. Du coup, on n'a pas du tout fait de photos, mais on fera ça une autre fois. Le mec était déjà adulte. Non, mais ça tient pas. En fait, désolé, mais en fait, ça peut pas marcher. Soit tu changes les deux acteurs. Non, mais je comprends. Vous allez dire, oui, le mec était déjà vieux. Enfin, je suis désolé, s'il y a 10 ans qui passent, les deux vieillissent. Donc, soit tu changes les deux, soit tu les changes pas. C'est ça, le problème. Au-delà des problèmes, on va dire, moraux, genre les femmes vieillissent plus que les hommes physiquement, c'est plus une question... Moi, du coup, ça m'a complètement sorti de l'histoire parce qu'il y a un des persos, c'est plus le même acteur, et l'autre perso, c'est le même acteur. Comment voulez-vous que je m'y retrouve ? Surtout qu'aujourd'hui, on a les technologies pour vieillir. Enfin... On fait ce qu'on veut avec l'âge des acteurs. Hein. Donc, ouais, très mauvaise décision de la part des showrunners, je trouve, ce changement de casting. Sur ce, je vais vous laisser. On va faire un petit raid chez quelqu'un, bien évidemment. Petit raid. Red. Tiens, Velvet Shadow, ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas fait un raid chez lui. Vous lui faites des gros bisous de ma part parce que je ne vais pas pouvoir rester. Ça parle politique manifestement chez Velvet Shadow. Donc au moins, il l'indique dans son titre. Réaction anti-réac, yes, on va parler politique, super. Mon avis, ça va être relativement léger. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. On se retrouve mardi avec Marion pour le mug. Et d'ici là, je vous souhaite de merveilleuses aventures, car chaque journée est une aventure. Surtout pour moi en ce moment. Passez un très bon week-end. Je sais qu'il va faire mauvais, il va y avoir des gros orages et tout. Eh ben, profitez-en pour faire des trucs qu'on fait pendant les orages. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.